Chapitre 6, dans lequel l'histoire continue encore. « Assurément, mon ami, dit l'excellent homme, vous êtes le plus étrange des hommes. Non seulement avoir souffert, comme cela vous est arrivé autrefois, pour avoir persisté obstinément dans un mensonge, mais y persister jusqu'au bout, et vouloir ainsi passer dans le monde pour le domestique de votre propre fils. Quel intérêt pouvez-vous avoir à tout cela? Quel peut être votre motif ?» « Je vois, monsieur, dit Partridge en tombant à genoux, je vois que vous êtes prévenu contre moi, et résolu à ne rien croire de ce que je dis. À quoi pourraient donc servir toutes mes protestations? Mais cependant il y a quelqu'un là-haut qui sait que je ne suis point le père de ce jeune homme. « Comment, dit Allworthy, voulez-vous nier encore ce dont vous avez été autrefois convaincu d'une manière si évidente et si incontestable? Et n'est-ce pas une confirmation des témoignages portés contre vous que de vous retrouver avec ce même homme au bout de 20 ans? J'ai cru que vous aviez quitté l'Angleterre. Je vous croyais même mort depuis longtemps. De quelle manière avez-vous eu des nouvelles de ce jeune homme? Où avez-vous pu le retrouver, à moins d'avoir entretenu une correspondance avec lui? Ne me le niez pas, car je vous assure que votre fils gagnera beaucoup dans mon opinion, quand je saurai qu'il a eu un sentiment assez profond du devoir filial pour avoir soutenu secrètement son père pendant un si grand nombre d'années. « Si vous voulez avoir la patience de m'écouter, dit Partridge, je vous dirai tout. » Ayant reçu ordre de continuer, il poursuivit ainsi. « Quand vous m'eûtes accablé de votre disgrâce, ma ruine la suivit bientôt après, car je perdis ma petite école, et le curé, pensant, je le suppose, faire une chose qui vous serait agréable, m'ôta la place de bedeau, en sorte que je n'avais plus de fonds à faire que sur ma boutique de barbier, laquelle, dans un lieu comme celui-là, est un pauvre gagne-pain. Mais quand ma femme mourut, car jusqu'à cette époque je recevais une pension de 12 livres d'une main inconnue, mais que je crois véritablement avoir été la vôtre, quelle autre personne fait de ces choses-là, mais, comme je disais, quand ma femme mourut, cette pension ne me fut plus payée, en sorte que j'avais alors 2 ou 3 petites dettes qui commencèrent à m'inquiéter, surtout une à un procureur qui l'avait fait monter, avec les frais de 15 shillings, à près de 30 livres. Voyant donc que tous mes moyens de subsistance m'abandonnaient à la fois, je fis sans différer un paquet de mon petit avoir, et je m'en allai. Je me rendis d'abord à Salisbury, où je me mis au service d'un homme de loi, le meilleur humain que j'aie jamais connu, car il n'était pas seulement bon pour moi, mais je connais 1000 actions bonnes et charitables qu'il fit pendant que je demeurais chez lui, et je l'ai vu souvent refuser des affaires par la seule raison qu'elles étaient injustes et oppressives. Vous n'avez pas besoin d'entrer dans tant de détails, dit Allworthy. Je connais cet homme, c'est un digne homme, et qui honore sa profession. De là, monsieur, continua Partridge, j'allais à Leamington, où je fus pendant plus de 3 ans au service d'un autre homme de loi, qui était également une bonne patte d'homme, et assurément l'un des plus joyeux de toute l'Angleterre. Eh bien, monsieur, à la fin de ces 3 ans, j'établis une petite école qui commençait à tourner assez bien, sans un accident très malheureux qui m'arriva. J'avais un cochon, et un jour, ma mauvaise fortune permit que mon cochon s'échappât et causa un délit, je crois qu'on appelle cela ainsi, dans un jardin appartenant à un de mes voisins, homme fier et vindicatif qui avait pour procureur je ne peux pas me rappeler son nom. Mais il me fit assigner et m'envoya aux assises. Quand j'y comparus et que j'entendis « Dieu ait pitié de moi » tout ce que dirent les avocats, il y en eut un qui dit au Lord Juge un tas de mensonges atroces contre moi. Il dit que j'avais l'usage de conduire mes cochons dans les jardins d'autrui et pis encore. Il termina en disant qu'il espérait que j'avais enfin conduit mes cochons au marché. À coup sûr, on aurait pu croire qu'au lieu d'être l'humble possesseur d'un seul petit cochon, j'étais le plus gros marchand de cochons de toute l'Angleterre. « C'est fort bien, dit Allworthy, n'entrez pas dans tant de détails. Je ne vous ai pas encore ouï dire un mot de votre fils. » Oh, ce ne fut qu'après un grand nombre d'années, répondit Partridge, que je revis mon fils, comme il vous plaît de l'appeler. Après cela, je m'embarquai pour l'Irlande, et j'établis une école à Cork. un procès m'y ruina encore, et je restai 7 ans dans la prison de Winchester. « C'est bien, dit Dolworthy, passons à votre retour en Angleterre. » « À la bonne heure, monsieur, reprit Partridge. Il y a environ 6 mois que je débarquai à Bristol, où je demeurai quelque temps. N'y trouvant rien à faire, et ayant entendu parler d'un village entre Bristol et Gloucester, où le barbier venait de mourir, je m'y rendis et j'y étais depuis 2 mois environ quand M. Jones y vint. Il fit alors à Allworthy un récit très détaillé de leur première rencontre et de tout ce qui leur était arrivé depuis cette époque, autant qu'il put se le rappeler. Il ne perdit pas une occasion d'entrecouper son récit de grands panégyriques de Jones, sans oublier de citer des exemples de l'amour et du respect extrême qu'il avait toujours conservé pour M. Allworthy. Il termina en disant « À présent, monsieur, je vous ai dit toute la vérité. » Il répéta, avec les protestations les plus solennelles, qu'il n'était pas plus le père de Jones que du pape de Rome, et il appela sur sa tête les plus horribles malédictions s'il ne disait pas la pure vérité. « Que dois-je penser de ceci ? » s'écria Allworthy. « À quoi bon nieriez-vous encore avec autant de force un fait dont je crois qu'il serait plutôt de votre intérêt de convenir ?» « Mais, monsieur, répondit Partridge, car il ne pouvait plus se contenir, si vous ne voulez pas me croire, vous pouvez vous donner la satisfaction d'interroger une autre personne. Je désirerais bien que vous vous fussiez mépris sur la mère de ce jeune homme, comme vous l'avez fait sur son père. » Interrogé alors sur ce qu'il voulait dire, il raconta à Allworthy, avec un sentiment d'horreur aussi remarquable dans sa voix que sur son visage, cette même histoire qu'un petit moment auparavant, il avait prié si instamment Mrs. Miller de lui cacher. Allworthy fut presque aussi effrayé de cette découverte que Partridge lui-même l'avait été en la racontant. « Bonté du ciel ! S'écria-t-il. Dans quelles affreuses calamités le vice et l'imprudence précipitent les hommes ! Que les effets de la corruption nous entraînent souvent bien plus loin que nous le voulons !» À peine avait-il prononcé ces derniers mots, que Mrs. Waters entra brusquement sans s'être fait annoncer. Partridge ne la vit pas plus tôt qu'il s'écria « La voici, monsieur, voici cette femme elle-même. C'est la malheureuse mère de M. Jones. Je suis sûr qu'elle me justifiera devant vous. Je vous en prie, madame. » Mrs. Waters, sans faire aucune attention à ce que Partridge disait, et presque sans le remarquer lui-même, s'avança vers M. Allworthy. « Je crois, monsieur, lui dit-elle, qu'il y a si longtemps que je n'ai eu l'honneur de vous voir, que vous ne me reconnaissez pas. » « En effet, répondit Allworthy, vous êtes si changé à tant d'égards que si cet homme ne m'eût pas déjà instruit qui vous étiez, je ne vous aurais pas rappelé sur le champ à mon souvenir. « Avez-vous, madame, quelque affaire particulière qui vous amène vers moi ?» Allworthy lui dit ces derniers mots avec le sérieux le plus grave, car le lecteur peut aisément croire qu'il n'était pas très satisfait de la conduite de cette dame, et aussi peu de ce qu'il en avait appris autrefois que de ce que Partridge venait de lui en raconter. Mrs. Waters répondit, « Il est vrai, monsieur, j'ai une affaire très particulière à traiter avec vous, et elle est de nature à ce que je ne puisse la communiquer qu'à vous. Je dois donc vous prier de m'accorder la grâce de vous dire un mot, mais à vous seul, car je vous assure que ce que j'ai à vous dire est de la plus grande importance. » Partridge reçut en conséquence ordre de se retirer. Mais avant de sortir, il pria la dame de convaincre M. Allworthy qu'il était parfaitement innocent. « Vous n'avez pas besoin de craindre, monsieur, lui répondit-elle, je l'en convaincrai parfaitement. » Alors Partridge se retira, et ce qui se passa entre M. Allworthy et Mrs. Waters se lira dans le chapitre suivant. Chapitre 7. Continuation de l'histoire. Mrs. Waters, gardant le silence depuis quelques minutes, M. Allworthy ne put s'empêcher de lui dire « Je suis fâché de voir, madame, par ce que j'ai appris depuis, que vous ayez fait un si mauvais usage. » « Monsieur Allworthy, dit-elle en l'interrompant, je sais que j'ai commis des fautes, mais l'ingratitude envers vous n'est pas de ce nombre. Je ne pourrai jamais oublier, et je n'oublierai jamais vos bontés, dont j'avoue que je suis très peu digne. Mais daignez suspendre vos reproches pour le moment, attendu que j'ai une affaire extrêmement importante à vous communiquer. concernant ce jeune homme à qui vous avez donné le nom de Jones, mon nom de jeune fille alors. Aurais-je donc, dit Allworthy, puni par méprise un homme innocent dans la personne de celui qui vient de nous quitter? N'était-il pas le père de l'enfant? Il ne l'était pas, en effet, dit Mrs. Waters. Vous pouvez vous rappeler, monsieur, ce que je vous ai dit alors, que vous le connaîtriez un jour. Et je confesse m'être rendu coupable d'une cruelle négligence en ne vous l'ayant pas découvert plus tôt. Je savais si peu combien il était nécessaire. Eh bien, madame, dit Allworthy, ayez la bonté de continuer. Vous devez vous souvenir, monsieur, dit-elle, d'un jeune homme dont le nom était Sama. Très bien. C'était le fils d'un ecclésiastique de grand savoir et d'une vertu distinguée, pour qui j'avais beaucoup d'amitié. Cela parut bien dans le temps, monsieur, car c'est vous, je crois, qui avez élevé ce jeune homme et qui l'avez entretenu à l'université. Ce fut, je crois, quand il eut fini ses études, qu'il vint se fixer chez vous. Je ne crois pas que la nature ait jamais produit un jeune homme plus parfait, car, outre qu'il avait la plus belle figure qu'on ait jamais vue, il était si aimable, il avait tant d'esprit et de politesse. Le pauvre jeune homme, il nous fut enlevé bien avant le temps. J'étais bien loin de penser qu'il eût aucune faute de cette nature à se reprocher, car je vois clairement que vous allez me dire qu'il était le père de votre enfant. Non, monsieur, il ne l'était point. Comment? Et à quoi tend donc tout ce préambule? À vous préparer, monsieur, au récit d'un fait dont je vois avec douleur que c'est à moi de vous instruire. Oh, monsieur, ce que vous allez entendre vous surprendra, vous affligera. Parlez, je n'ai rien à me reprocher, et il n'y a rien que je craigne d'entendre. Monsieur, ce monsieur Sama, le fils de votre ami, élevé à vos dépens, qui, après avoir vécu chez vous pendant un an, comme s'il eût été votre propre fils, y est mort de la petite vérole, qui a été tendrement regretté par vous, et à qui vous avez fait rendre les honneurs funèbres si distingués. Ce Sama, monsieur, était le père de cet enfant. Comment? Vous vous contredisez vous-même? Non, monsieur. Il était en effet le père de cet enfant, mais je ne suis point sa mère. Prenez garde, madame. Pour éviter l'imputation d'un crime, ne vous rendez pas coupable d'un mensonge. Souvenez-vous qu'il y a un être à qui vous ne pouvez rien cacher, et au tribunal duquel un mensonge ne fera qu'aggraver votre faute. Je vous arrête, monsieur. Je vous atteste, monsieur, que je ne suis point sa mère. Et pour le monde entier, je ne voudrais point à présent avoir le moindre doute à cet égard. Je sais vos raisons, et je serai heureux autant que vous que cela ne soit pas. Cependant, vous devez vous souvenir que vous l'avez vous-même confessé devant moi. Ce que j'ai confessé était si loin d'être vrai que j'ai porté l'enfant moi-même dans votre lit, que je l'y ai porté par l'ordre de sa mère. C'est aussi par son ordre que je l'ai reconnu pour le mien, et je me suis trouvé alors, par sa générosité, noblement récompensé de mon silence et de ma honte. Qui peut être cette femme? Je tremble en vérité de la nommer. Tout cela me ferait croire qu'elle était ma parente. Et votre parente très proche même. À ces mots, Allworthy tressaillit de surprise. Elle continua. Vous aviez une sœur, monsieur. Une sœur, répéta-t-il en la regardant avec effroi. Comme la vérité réside dans le ciel, votre sœur était la mère de cet enfant que vous trouvâtes dans votre lit. Bonté divine, est-il possible? Ayez patience, monsieur, et je vous développerai toute cette histoire. Aussitôt après votre départ pour Londres, Mrs. Bridget vint un jour chez ma mère. Elle eut la bonté de lui dire qu'elle avait entendu faire un éloge extraordinaire de moi, de mon savoir et de mon esprit, infiniment supérieur à celui de toutes les autres jeunes filles du village, du moins c'est ainsi qu'elle eut la bonté de s'exprimer. Elle m'ordonna en conséquence de venir la voir au château, où, quand j'étais auprès d'elle, elle m'employait à lui faire la lecture. Elle me montra beaucoup de bonté et me combla de présents. Enfin, elle me fit un jour un discours assez long sur l'importance qu'il y avait de savoir bien garder un secret. Je lui fis à cela des réponses si satisfaisantes qu'après avoir fermé la porte de sa chambre, Elle m'emmena dans son cabinet, et, après en avoir aussi fermé la porte, elle me dit qu'elle voulait me convaincre de la confiance absolue qu'elle avait dans mon honnêteté, en me communiquant un secret d'où dépendait son bonheur et conséquemment sa vie. Elle s'arrêta alors, et après un silence de quelques minutes, pendant lequel elle essuya souvent ses yeux, elle me demanda si je croyais qu'on pût entièrement se fier à ma mère. Je lui répondis que je pouvais répondre de sa fidélité. Elle me confia alors le grand secret dont elle était oppressée, et qui, je crois, lui causa plus de douleur à mettre au jour qu'elle n'en souffrit ensuite en accouchant. Il fut convenu alors que ma mère et moi serions les seules personnes qui l'approcheraient à cette époque, et que Mrs. Wilkins serait envoyée, comme elle le fut en effet, dans le fond du Dorsetshire, pour prendre des informations sur une femme de chambre, car Mrs. Bridget avait renvoyé la sienne près de 3 mois auparavant. Pendant ce temps, je restais auprès d'elle à l'essai. C'était l'expression dont elle se servait. Quoiqu'elle eût déclaré ensuite que je n'étais pas assez adroite pour les fonctions dont elle m'avait chargé. Ce qu'elle avait l'habitude de répéter en temps et lieu, ainsi que beaucoup d'autres choses, à l'effet de prévenir les soupçons que Wilkins pourrait concevoir par la suite, quand je viendrais à avouer l'enfant. Car elle pensait qu'on ne pourrait jamais croire qu'elle se hasarda à offenser une jeune fille à qui elle avait confié un pareil secret. Vous pouvez être assuré, monsieur, que je fus bien payé pour tous ces affronts, que j'endurais d'autant plus patiemment que j'en connaissais bien la cause. La vérité est que la dame craignait davantage Mrs. Wilkins que toute autre personne. Non qu'elle eût la moindre aversion pour elle, mais elle la jugeait incapable de garder un secret, surtout vis-à-vis de vous, monsieur. Car j'ai souvent entendu dire à Miss Bridget que si Mrs. Wilkins commettait jamais un meurtre, elle ne doutait pas qu'elle ne vous en instruisît. Enfin, le jour arriva où Mrs. Wilkins fut éloignée. Il y avait 8 jours qu'elle était prête à partir, mais son départ avait été retardé de jour en jour sous différents prétextes, afin qu'elle ne fût pas trop tôt de retour. L'enfant vint alors au monde, en ma présence et celle de ma mère, qui l'emporta à sa maison, où il fut gardé secrètement jusqu'au soir de votre arrivée, que, par l'ordre de Miss Bridget, je le portais dans le lit où vous l'avez trouvé. Tous les soupçons qui ont pu s'élever par la suite ont été détournés par la conduite adroite de votre sœur, qui affectait de mauvaises dispositions pour l'enfant, et prétendait que le peu d'égard qu'elle lui montrait n'était que par pure complaisance pour vous. Mrs. Waters protesta alors 1000 fois de la vérité de son récit, et conclut en disant « Ainsi, monsieur, vous avez enfin découvert votre neveu, car je suis sûr que vous le regarderez dorénavant comme tel. Et je ne doute pas que sous ce titre, il ne devienne à la fois pour vous un honneur et une consolation. Je n'ai pas besoin, madame, de vous exprimer mon étonnement de ce que vous venez de me dire. Et cependant, vous n'auriez pas voulu, vous n'auriez pas pu réunir autant de circonstances pour appuyer un mensonge. Je m'en rappelle, je l'avoue, quelques-unes relatives à ce Sama, qui me donnèrent autrefois l'idée que ma sœur avait du goût pour lui. Je lui en parlais à elle-même, car je faisais un si grand cas de ce jeune homme, tant à cause de lui qu'à cause de son père, que j'aurais volontiers consenti à ce mariage. Mais elle repoussa avec le plus grand mépris mes soupçons désobligeants. C'est ainsi qu'elle les appelait, en sorte que je ne lui en reparlais plus. Bonté du ciel! Allons, Dieu dispose de tout. Cependant, ma sœur s'est conduite d'une manière inexcusable, en apportant avec elle ce secret dans le tombeau. Je vous assure, monsieur, qu'elle a toujours professé l'intention contraire, et qu'elle m'a dit souvent qu'elle avait le projet de vous le communiquer. Elle disait encore qu'elle était charmée que son complot eût aussi bien réussi, et que vous eussiez, de votre propre mouvement, pris une telle amitié pour l'enfant qu'il ne fut pas encore nécessaire de vous faire aucune déclaration expresse. Oh, monsieur, si cette dame avait vécu pour voir ce pauvre jeune homme chassé de chez vous comme un vagabond. Oh, monsieur, si elle avait vécu pour apprendre que vous avez vous-même chargé un procureur de le poursuivre pour un meurtre dont il n'était pas coupable. Pardonnez-moi, monsieur Holworthy, je dois dire qu'il y avait quelque chose de cruel à cela. Croyez-moi, vous avez été trompé. Il n'a jamais mérité cela de vous. Assurément, madame, vous avez été trompée par celui, quel qu'il soit, qui vous a raconté ce fait. Ne vous trompez pas à mes paroles, monsieur. Je ne prétends pas dire que vous ayez en ceci le moindre tort. Celui qui est venu me voir ne m'a rien dit de semblable. Il m'a dit seulement, en me prenant pour la femme de M. Fitzpatrick, que si M. Jones avait assassiné mon mari, j'aurais tous les secours d'argent qui me seraient nécessaires, et qu'il me serait fourni par un très digne gentilhomme, parfaitement instruit, ajouta-t-il, à quel scélérat j'avais affaire. C'est par cet homme que j'ai découvert quel était ce M. Jones, et ce même M. Jones vient de me dire que cet homme, dont le nom est Dowling, est votre homme d'affaires. J'ai appris son nom par un événement très étrange, car il avait refusé de me le dire lui-même. Mais Partridge, qu'il a rencontré la seconde fois qu'il est venu chez moi, l'avait connu autrefois à Salisbury. Et ce M. Dowling, dit M. Allworthy, en marquant un grand étonnement, vous a-t-il dit que je vous aiderais dans cette poursuite? Non, monsieur, je ne veux point l'accuser injustement. Il m'a dit que je serais aidé, mais il ne m'a nommé personne. Vous aurez cependant la bonté de me pardonner, monsieur, si les circonstances m'ont pu faire croire que ce ne pouvait être un autre. Et moi, madame, les mêmes circonstances me persuadent trop bien que c'est un autre. Bonté du ciel! Par quel merveilleux moyen vous permettez que la plus noire et la plus profonde scélératesse soit quelquefois découverte? Oserais-je vous prier, madame, de rester jusqu'à ce que la personne dont vous venez de parler arrive? Je l'attends à chaque minute. Elle est peut-être même déjà dans la maison. M. Allworthy s'avança alors vers la porte pour appeler un domestique, quand parut non M. Dowling, mais le personnage qu'on verra dans le chapitre suivant.